Bonjour à vous tous, merci d'être présents chez Filigrane aujourd'hui. La rencontre littéraire débute à l'instant à l'Espace Bar, donc n'hésitez pas à venir nous y rejoindre pour rencontrer, pour écouter notre invité du jour, à savoir Didier Van Kovelaert, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui suite à la parution chez Albin Michel de son nouveau roman intitulé Les témoins de la mariée. Didier Van Kovelaert, bonjour.
Bonjour.
Alors, cette fois-ci, à travers ce nouveau livre, vous nous orchestrez un roman à quatre voix pour nous laisser entendre une cinquième voix, celle d'une Chinoise venue en France se marier.
Voilà, qu'ajouter de plus, c'est un bon pitch. Oui, c'était important. Vous savez, chaque roman, chaque histoire commande sa manière d'être racontée. Et là, très vite, ce sujet a réclamé plusieurs voix, puisque justement, on a quatre amis autour d'un cinquième qui est le pôle, l'aimant de leur amitié depuis 20 ans, qui est un grand photographe, Marc, qui les a entraînés dans son sillage à Paris, se sont connus au lycée, au club théâtre, où Marc déjà les mettait en scène. Et puis cet homme a eu une grande chance dans sa vie, est devenu très tôt, à 19 ans, pour des raisons qu'il estime un peu imméritées, un très grand photographe, très demandé, très riche. Et ses amis se sont un peu satellisés autour de lui, autour de cet homme qui est sorte de séducteur un peu mécanique, qui ne passe jamais une semaine, plus d'une semaine avec une femme, par respect pour ses futures conquêtes, quoi, pour celles qui attendent leur tour. Et puis, il a un mélange de cynisme et de résignation dans sa manière de vivre son succès, tout en étant lucide et pas dupe sur le fait qu'évidemment, il est connu, il est célèbre, il fait des photos magnifiques, il rend toutes les femmes sublimes quand il les prend en photo. Et il sent que chaque fois qu'il les prend en photo et dans son lit, après, il les sublime et elles ne peuvent plus rentrer dans leur vie de la même manière. Et on pense que cet homme jamais ne tombera amoureux, Eh ben si. Et un jour, au moment de Noël, le pré-réveillon du 21 décembre, avec ses copains, avant le réveillon des familles et tout ça, et ben il leur annonce qu'il a trouvé la femme de sa vie et qu'il se marie dans 5 jours. Alors, consternation, incrédulité de la part des amis, surtout quand il montre la photo d'une Chinoise, qu'il a connue à Shanghai et qui, apparemment, est un peu le summum de la banalité, quoi. C'est vrai qu'elle pourrait illustrer à la une de Libération le sujet des sans-papiers, quoi. Un côté un peu boat people, un peu bon appliqué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et lui dit voilà, je peux pas vivre sans elle. J'ai bien réfléchi. Je l'ai connue à Shanghai. Elle est peintre, mais assez particulière parce qu'elle est faussaire. Elle fait des reproductions. Elle fait 3 Jocondes par jour pour 2 euros pièce dans un atelier de reproduction. Et voilà, elle arrive après-demain à Charles de Gaulle et on se marie dans 5 jours. Et bien sûr, vous êtes les témoins. Et on va faire un tirage au sort parce qu'il faut 2 témoins pour elle et 2 témoins pour moi. Donc voilà, la situation qui l'écueille complètement ce soir de pré-réveillon. Et évidemment, ils peuvent pas dire non parce que ils peuvent même pas consulter leur agenda. C'est une preuve d'amitié qui leur est demandée là. Ça ne se résout pas autrement que par un tirage au sort et c'est comme ça. Sauf que le lendemain, Marc trouve la mort dans un accident de voiture. Et voilà les 4 témoins qui vont à l'aéroport chercher une femme dont ils ne connaissent que le prénom, la photo et le numéro de vol. Sauf que lorsque une jeune femme les aborde dans celles qui sont descendues de ce vol, elle n'a rien à voir avec sa photo. C'est une espèce de sublime créature, synthèse entre Jackie Kennedy et une gaïcha de Playboy relookée haute couture. En fait, elle a tout refait. Pour l'homme de sa vie, pour le pays de ses rêves, elle s'est complètement transformée. Elle leur dit bonjour, elle les reconnaît spontanément. Visiblement, Marc les a parfaitement décrits. Et eux qui se sont préparés à une sorte de mensonge thérapeutique, se dire bon, on va pas lui annoncer comme ça à la sortie de l'avion, ben voilà, vous reprenez votre vol parce que il n'y a plus de mariage, le fiancé est mort. Ils ont prévu de gagner un peu du temps, ils ont mis au point plusieurs scénarios possibles. Genre, il a été envoyé d'urgence dans un reportage photo, on gagne comme ça un peu de temps, ou bien il a eu un accident, mais les médecins ne se prononcent pas, gagner encore un peu de temps. Sauf qu'elle, d'emblée, quand il commence à dire « il n'a pas pu venir », elle enchaîne en disant « oui, je sais, dans votre pays, ça porte malheur que les fiancés se voient avant le mariage ». Alors, ils disent à la fois « on gagne un peu de temps, mais qu'est-ce qu'on répond à ça ?» Et à partir de là, c'est une sorte de cauchemar enchanté qui va commencer, parce qu'ils sont, ça fait sous le charme de cette fille, ils en oublieraient même la situation. Et puis, elle sait exactement ce que dire à chacun. D'accord, elle est bien briefée par Marc, mais on sent qu'elle a une forme d'empathie très particulière. Et elle leur dit, bah donc s'il n'est pas venu, donc c'est. On dit oui, en plus il est parti en reportage. Il revient dans deux jours. Ils se mettent à improviser malgré eux. Elle dit oui, donc c'est à vous qu'il incombe la mission de me faire visiter Paris. Et bah, allons-y. Et les voilà en train de la trimballer, se dire mais à quel moment on lui dit, mais on ne peut pas lui dire, on ne peut pas. Et à partir de là commence. Enfin, eux qui étaient venus en pensant qu'ils allaient briser son rêve, c'est elle qui va bouleverser leur vie.
Et finalement, ce roman, eh bien, c'est la réponse à la question comment annoncer justement à cette future épouse que son promis, eh bien, s'est tué dans un accident de voiture quelques jours avant les noces. Alors, en tant qu'écrivain, Didier Van Kovelaar, vous étiez beaucoup plus inspiré par le statut de la fiancée que par la jeune veuve, parce que vous auriez pu très bien imaginer cet accident juste après la noce.
Mais non, parce que toute la situation est là. Elle est justement dans ce. En ce moment où il n'y a rien de pire que d'être une veuve sans titre, une fiancée, tout à coup, qui n'a a aucun avantage, et puis qui est donc dans une situation, parce que très vite, on se rend compte du suspense qui est au cœur du roman. Est-ce qu'elle ignore la mort de Marc, ou est-ce qu'elle est au courant, ou est-ce qu'elle a deviné, et qu'elle joue, elle leur joue leur jeu? Et pour quelle raison? Dans quel but? Et c'est vraiment une question qu'il se pose. Merci. Chacun à sa manière, chacun dans son ton, puisque chacun des quatre personnages va raconter tour à tour cette histoire et son interprétation du personnage de Yun Xiang, qui veut dire senteur de nuages. Que cache ce nuage? Est-ce que c'est un soleil magnifique, ou est-ce que c'est un orage dévastateur?
Dès lors, est-ce que c'est un roman sur l'harmonie avec soi-même, l'harmonie avec les autres?
Ben, un peu comme tous mes romans, c'est un roman sur la reconstruction. J'aime bien quand il y a au départ des drames, des cassures, de manière à voir comment on se reconstruit, comment on redécouvre ou on découvre le bonheur à partir d'une catastrophe, comment on se retrouve soi-même grâce à une situation extrême qui fait qu'on ne peut plus jouer à cache-cache avec soi-même, on ne peut plus se cacher derrière t'as d'autres raisons. Et oui, vous parlez d'harmonie, vous m'avez bien lu. C'est vrai que c'est ce qui m'intéresse, c'est justement au-delà des clivages, des rivalités, même de la compétition amoureuse qui rapidement va se mettre en place chez ces quatre personnes, insensiblement, insidieusement. Et le but étant justement que chacun se réharmonise avec lui-même et avec les autres. Et en fait, Yoon est venu pour ça, sans dévoiler du tout les dernières parties du livre.
Alors, Didier Van Kovelaar, il y a un an, vous étiez en harmonie avec la peinture, déjà avec Magritte, la maison des Lumières. Ici, vous nous l'avez déjà dit, elle est peinte, mais elle, pas dans la lumière, elle est faussaire. Il est aussi question beaucoup de photographie. Est-ce que vous êtes comme l'un des personnages, Marlène, qui est galériste, c'est-à-dire que vous avez le besoin viscéral d'admirer et de voir traiter les œuvres à leur juste valeur?
Oui, et puis c'est vrai que j'ai un problème avec la peinture, c'est que j'aurais adoré être peintre et que je ne suis que romancier, parce que tu as une chose de plus dans la peinture ou dans la sculpture, par exemple, c'est travailler avec la matière, c'est ce travail très physique, le fait qu'on modifie un support totalement. Moi, quand je prends un papier, j'écris dessus, bon, il faut lire pour se rendre compte que quelque chose est modifié, ça n'est... on entre dans un livre tandis qu'on reçoit une œuvre d'art. On pénètre dans un tableau très différemment dans un livre. C'est immédiat ou non, quoi. Donc, mais c'est surtout ce travail avec une matière, avec le toucher, avec les odeurs, avec quelque chose d'unique qui me manque, et bon, comme tout romancier, je transforme mes manques en expression. Donc c'est pas un hasard s'il y a souvent des peintres, des galeristes, ou des gens qui soient Ça me permet de vivre à travers mes romans une vie que je n'ai pas vécue. C'est aussi pour ça que j'écris.
Est-ce que vous écrivez également pour donner du sens? Parce que pour un autre de vos personnages, il explique que lui, il trouve du sens lorsqu'il lit les romans. Alors vous, est-ce que vous trouvez du sens justement quand vous les écrivez?
Ah bah oui, c'est on écrit pour donner un sens ou du sens à la vie. Et pour la changer de sens aussi. Pour ne pas simplement subir tout le temps le mouvement du temps, des heures, les... Voilà, c'est... On crée un nouvel espace-temps et cet espace-temps, on souhaite y accueillir les gens. Donc c'est un espace-temps dont on a besoin soi-même, mais aussi en tant que structure d'accueil pour les autres. Donc, évidemment, c'est là que la vie prend un sens, que... On ne fait pas que subir les sentiments douloureux ou accueillir et avoir peur de perdre les sentiments heureux. On met tout ça en perspective et on fait une histoire qui a un début, un milieu, une fin et des rebondissements, comme la vie devrait toujours être et comme elle est si rarement qu'on passe souvent le temps à écrire ou à lire des romans un petit peu pour se consoler que la vie ne soit pas toujours à la hauteur de... nos espérances.
Également pour transformer la réalité, parce que dans ce roman, à un moment donné, vous citez Cocteau, justement, et on peut s'interroger sur ce que c'est la réalité. Est-ce que la réalité, c'est ce qui nous aide finalement à vivre ou à survivre?
Mais la réalité, c'est un point de départ. C'est un point de départ indispensable, mais si on n'en part pas, on est foutu. Pour moi. Et pour les gens qui lisent des romans, parce que sinon, ils ne liraient pas de romans, ils liraient des biographies, des choses vraies. Réel, qui arrive dans la vie. C'est pas... Voilà, je pense que le rêve qui nous démange, l'idéal qui demande à s'exprimer, les regrets, les nostalgies, l'humour, toutes ces forces vives qui étouffent dans la réalité, qui ont envie de bouger les repères ambiants et tout, sont évidemment le moteur d'un écrivain.
C'est pas un hasard si vous avez choisi comme fiancée une Chinoise, parce qu'aujourd'hui tout vient de Chine.
Oui, mais justement, on voit que du négatif arriver. Et par instinct aussi de romancier, j'aime bien prendre le contre-pied des idées reçues et des peurs ambiantes. Et elle est tout à fait emblématique des jeunes Chinoises. Elle a une acuité, une rapidité, une dureté et un côté terriblement sensible qui fait qu'elle se protège de sa sensibilité derrière une armure très forte. Et puis qu'elle est, comment dire, elle est à la fois issue d'une culture millénaire dont elle est très fière et totalement neuve et en situation d'adaptation constante. Et son métier, qui est plus qu'un métier, qui est la seule activité qu'elle exerce depuis qu'elle a 15 ans, c'est-à-dire entrer dans l'univers d'un peintre, dans ses tableaux, et le reproduire. Et elle fait la même chose avec les êtres humains, c'est-à-dire qu'il y a son empathie, elle comprend où est l'intention, où est la patte, où est le style, où est la faille, où est le... Et voilà, et à côté de ça, elle a tout ce qu'on peut attendre, enfin, tout ce qu'on reconnaît quand on connaît un peu les Chinois, et particulièrement les jeunes Chinoises qui sont plus démonstratives que les Chinois. Il y a une chose qu'on ne peut même pas appeler de nationalisme, parce que ça n'a rien à voir avec le nom qu'on lui donne en Europe, c'est parce que c'est pas le contraire de quelque chose. Comme chez nous, souvent, il y a les nationalistes d'un côté, de l'autre côté, bon, des gens plus ouverts. Là-bas, non, c'est-à-dire qu'on est chinois, donc on pense ça. La question ne se pose pas. On est l'héritier d'une culture, d'une tradition, d'une manière de vivre, de penser, et on est clairement les meilleurs du monde parce qu'on est les meilleurs du monde. Et c'est et ils vivent ça avec une sérénité qui est rare chez nous, parce que pour les Français qui ont toujours le côté un peu coq, gaulois, de dire bon, à côté de ça, il y a une jubilation à toujours s'auto-flageller, qui n'est pas du tout dans la culture chinoise. Donc ce qui m'intéressait, c'est le choc, là encore. C'est un roman, c'est pas un essai géo-psycho-politique et tout. Simplement la confrontation de deux univers. Et Et comme il est dit dans le roman, Yoon, c'est une fourmi du bonheur au pays des cigales désenchantées. Mmh. C'est ce contraste-là qui m'intéressait. Mmh.
Mais c'est un roman, comme vous le dites, mais évoquer la Chine, c'est soulever néanmoins une problématique, celle du Tibet, qui est une question importante et que vous traitez un peu en disant que finalement, on ne peut pas généraliser.
Bah, c'est-à-dire qu'il était intéressant, en tout cas original, de donner la parole aux Chinois, pas aux hommes politiques, mais à une Chinoise de Chine, normale, qui tient un discours assez particulier sur le Tibet, pour le faire comprendre à un moment donné face à l'un des personnages qui lui est un journaliste très militant de la cause tibétaine, pour que je déshabille les mythes. Il revient tout de suite. Et qui est un grand militant de la cause tibétaine et qui l'agresse dès le début en disant que le c'est pas une province, c'est un pays. Et elle lui répond, une province, non, mais c'est comme vous dites en parlant de la Corse. Alors, ça, c'est, vu le Tibet, vu dans l'œil des Chinois, c'est la Corse. Dire une province de chieurs autonomistes. Et ça, personne ne le traite jamais. C'est vraiment la réalité du regard. Il n'empêche qu'elle, on découvre dans le livre qu'elle a un vécu lié au Tibet par sa famille. Ses parents ont été envoyés comme colons chinois au Tibet là-bas. Et puis on a, c'est aussi l'occasion dans une discussion très, très serrée et à la fois très tendue et d'où va sortir une vraie ouverture et une vraie émotion avec Lucas, le journaliste. Il ressort par exemple, une chose dont on ne parle jamais, c'est que le problème du Tibet de par la colonisation, la stérilisation à haute dose des femmes et du sol, tout ça, bientôt, il n'y aura plus de Tibétains. Et tout le monde sera chinois, donc le problème de l'autonomie ne se posera plus. Mmh. Et les Chinois jouent la montre. Et ça, c'est la seule chose certaine qu'on puisse dire aujourd'hui. À moins qu'il y ait un bouleversement dans la volonté chinoise par rapport au Tibet, ce qui paraît assez hypothétique, mais la situation est là. Ça n'empêche pas. Et qu'il faut, je pense, rester sensible au sort et à la nature de ce pays qui en fait n'a jamais été chinois, mais c'est encore un cadeau des Anglais, ça, qui, pour faire du commerce, ils ont décidé à un moment donné de lier Chine et Tibet, quoi. Ça, c'est l'origine, elle n'est pas politique, elle est commerciale.
Et on retrouve cette histoire collective à travers l'histoire de vos personnages, puisqu'au fur et à mesure des pages, eh bien, cette jeune Chinoise va se révéler, va se raconter au journaliste Lucas, qui est un des témoins, afin que finalement il écrive un jour son histoire à elle. Alors, comme vous l'avez dit, la réalité, c'est toujours un point de départ. Votre point de départ, ça a été une réalité, puisqu'également, ce livre est quand même dédié à un photographe célèbre, connu et reconnu.
Oui, qui ne m'a pas inspiré du tout le personnage central, mais qui m'a chuchoté le point de départ de l'histoire un jour où je faisais une séance photo avec lui, c'est Jean Lucieff, qui simplement me dit un jour, il m'est arrivé une chose un jour, il faut que je te raconte un jour quand on aura le temps, parce que c'est un sujet pour toi. J'ai des témoins un jour, j'avais un copain qui se mariait et il m'a demandé d'être son témoin et puis il est mort et on s'est retrouvé à aller chercher la fiancée qui n'était pas au courant, qui arrivait d'un pays lointain. Je te raconterai ça un jour. Et puis il est mort lui-même quelques temps après, il ne m'a jamais raconté la suite, ce qui a permis au romancier que je suis de travailler cette histoire pendant 10 ans en fait. Pendant 10 ans, ça m'a... Dès le début, j'ai su que j'écrirais ça, parce que ça, il y a un instinct, il avait raison quand il m'a dit « c'est un sujet pour toi ». Bien sûr, parce que mes thèmes de l'identité, de la reconstruction, de l'amour qui naît d'une situation de conflit et qui recrée justement de l'harmonie et qui fait repartir les êtres cassés vers une nouvelle aventure, c'est bien sûr des thèmes pour moi.
Le thème central de tous vos livres, qui pourrait être résumé par quelques mots, c'est quand on a tout perdu qu'on se retrouve.
Oui, c'est une phrase qui revient souvent dans le livre, c'est ce que disait Marc souvent à ses amis, ce qui leur paraissait un peu bizarre, parce que dans sa bouche, lui qui en fait ne manquait de rien et n'avait jamais douté de lui-même, quoi. C'était alors que eux, tous les quatre, oui, manque de tout, de beaucoup de choses en tout cas, et sauf de doute. Et c'est une phrase que j'aime bien parce qu'elle a double sens. On se retrouve, ça, quand on a tout perdu, on se retrouve, ça veut dire que on se retrouve entre amis, on se retrouve, ça reforme un lien face à l'épreuve, à la perte, à l'absence. Et puis on se retrouve soi-même aussi, de par cette situation. Et tout à coup, ils se retrouvent chacun à sa manière obligé de se prendre en main et de répondre à l'attente, aux machinations ou aux coups de baguette magique de Youn.
Que vous orchestrez à travers ce nouveau roman. Alors pour terminer, Didier Van Kovela, dans la classification de vos romans, ce dernier né, il appartient à quelle catégorie? Les seconds départs, la raison d'amour, les regards invisibles?
En fait, ça c'est une, c'est quelqu'un, c'est une étudiante qui a fait une thèse sur moi, qui est une Irakienne, qui a eu mention très bien à l'université Lyon Lumière. J'étais contemporaine, je suis désolé qu'elle se ramasse en choisissant comme sujet. Et c'est elle qui a inventé cette classification que je me suis permis de lui emprunter avec son accord parce que je trouvais ça finalement très bien. Puis on va sortir comme ça des coffrets avec chacun des thèmes. Et puis, voilà. Mais non, je n'aurais pas moi-même trié et classé mes bouquins comme ça pendant que je suis vivant. C'est plutôt un truc de mort, ça, je trouve, après. Mais ça ne me gêne pas. On connaît, mes lecteurs connaissent un peu mon rapport assez détendu avec la mort. Donc. En fait, il pourrait être dans les seconds départs, comme il pourrait être dans la raison d'amour, comme il pourrait être dans les regards invisibles. Ça va être un vrai problème de le classer, celui-là.
La réponse de Normand, de l'auteur, à chaque lecteur, finalement, de classer le livre où il a...
Oui, on fera un vote, en fait.
Voilà. On fera un sondage parmi les lecteurs de Filigrane.